Hélène Morin, bonjour.
Bonjour.
Présidente de l'Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement. Également, c'est important de le souligner, maman, une grande fille, mi-trentaine, Hélène, hein, c'est
35
ça?
Ans, 35 Geneviève, ans, Geneviève, qui a une trisomie 21.
Et qui vous a donné au départ cette envie de vous engager auprès des parents qui vivaient une situation similaire.
Oui, je me suis engagée assez rapidement. C'est sûr que les deux premières années, là, on prend le temps d'accuser le coup, comme on dit, là. Mais oui, rapidement, je me suis engagée. Je n'étais pas à Montréal à ce moment-là, j'étais en région. Mais dès que je suis arrivée à Montréal, je me suis engagée dans les associations.
Mm-hmm. Hélène, est-ce que le parcours du combattant, là, je pense que c'est le bon terme, a changé avec les années? Est-ce que lorsque Geneviève est née, il y avait plus de services que maintenant pour des parents qui vivent avec un enfant qui a une déficience intellectuelle?
Non seulement il n'y avait plus de services pour les parents, mais il y avait plus de services pour les enfants aussi. Je vous dirais, moi, qu'on courait après nous une fois que le réseau savait, parce que quand l'enfant venait au monde, ça s'acheminait dans les CLSC, entre autres. Alors, on courait après nous pour donner des services. Moi, ma fille a eu de la stimulation précoce, qui est le premier service là, dont les personnes déficientes intellectuelles ont besoin. C'est une forme de réadaptation pour les petits. Ça a commencé à l'âge de 3 mois.
Oh, OK.
Aujourd'hui, c'est des années, puis il y en a qui n'en ont pas pantoute, où ils ont 1 heure par 2 semaines, puis est-ce que ça donne beaucoup? Là, je le sais pas, mais moi, je veux dire ce que ma fille a eu au début, la première année, puis ensuite, il y avait des services de jour qui étaient donnés dans les centres de réadaptation pour faire de la stimulation précoce avec les enfants. Au début, c'était un programme qui venait de l'UQAM, et ensuite, ça a été les centres de réadaptation. Moi, je considère que ma fille, quand elle était petite, elle a eu des services. Et une autre façon qui démontre qu'on avait des services, même pour les parents, moi, on m'a déjà appelée en 88, ma fille est née en 89, pour me demander si je voulais du répit parce qu'il restait de l'argent. Ça n'existe pas, ça, aujourd'hui, là.
Votre fille est sûrement née en 79?
Ma fille est née en 81.
Ah, c'est ça, en 81. OK, parce que je faisais le calcul dans ma tête, je me disais, ah oui, c'est ça, en 81.
Oui.
On explique comment ces services-là, qui, tout d'un coup, se sont amenuisés au fil des années.
Effectivement. Une autre chose que je veux dire, c'est que c'est sûr qu'il y a santé et services sociaux, mais moi, on m'a appelée quand ma fille a été due pour aller à l'école pour dire que l'école régulière du secteur où je demeurais était prête à prendre ma fille. Imaginez, ça n'existe pas ça aujourd'hui, une école qui va appeler pour prendre les devants avec une famille pour intégrer leur enfant qui a une déficience intellectuelle. Je pense que ça n'existe plus.
Hélène, je le disais tout à l'heure, on a peu de temps, c'est un sujet qui pourrait prendre des heures. Pour un parent, une famille qui reçoit un diagnostic, qu'est-ce qui est important de comprendre assez rapidement pour essayer de naviguer dans ce réseau de santé qui, on le sait, est de plus en plus complexe?
Je pense que ce qui est important, c'est d'abord d'avoir effectivement le diagnostic, d'avoir une évaluation de c'est quoi la situation, parce qu'il y a un diagnostic, mais il y a toujours différents niveaux, et aussi de savoir comment rentrer dans ce réseau-là, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'accès, de savoir comment on accède aux services, de savoir ensuite comment exiger des services, parce que veux pas, si vous faites juste être sur une liste puis attendre, vous risquez d'attendre longtemps. À un moment donné, c'est de demander, d'exiger, de dire c'est le droit de cet enfant-là de recevoir des services. Vous savez, vous avez parlé du parcours du combattant, mais c'est une bataille constamment, même encore aujourd'hui. Moi, ma fille a 35 ans, il y a encore des batailles.
Même chose, Isabelle?
Même chose.
Oui. Après 13 ans.
C'est sans cesse. Puis moi, j'ajouterais, Hélène, je pense que les parents doivent sortir de leur isolement. Et un des meilleurs conseillers, à mon avis, là, et c'est plein de prétentions, c'est un autre parent.
Mais c'est pour ça que l'on crée des associations comme la vôtre, Hélène
comme
Morin.
Comme la DITEB, l'Association de parents en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. On n'a pas changé le nom, mais c'est maintenant troubles du spectre de l'autisme. Fait toutes sortes d'activités pour outiller les parents.
Oui.
C'est pas une association qui va donner des services, tu sais, directs aux personnes, mais c'est une association dont la mission première est la défense des droits des personnes déficientes intellectuelles et avec un trouble du spectre de l'autisme et de leur famille. Et on outille ces parents-là d'une façon ou d'une autre en leur disant quels sont leurs droits, en expliquant. On a un atelier, par exemple, où on explique aux parents comment on fait le portrait de son enfant. Parce qu'il faut être outillé, parce que des fois, si vous n'exprimez pas un besoin, la tendance de l'autre côté peut être de l'ignorer. Puis je parle pas, je veux pas blâmer les intervenants à la base, c'est pas ça du tout, mais des fois, ça peut être une directive qui leur est donnée. Bien, prenez ce qu'ils vous disent, puis allez pas de l'avant, allez pas au-devant.
Oui.
Alors, il faut outiller les parents pour être capables de bien faire un portrait de leur enfant, puis on essaie de les outiller aussi pour mettre toutes les chances de leur côté pour qu'ils puissent entrer en communication d'une façon correcte. Parce que c'est sûr, on a beaucoup d'émotions, beaucoup de
vulnérabilité aussi, parfois.
Tout à fait. Alors, on les outille pour bien communiquer. Dans le fond, ce qu'il faut, c'est mettre toutes les chances du bord du parent pour obtenir ce que le parent pense donc que son enfant a besoin.
Oui. Il y a aussi un atelier, ça m'a interpellée, Hélène, sur prendre soin de soi, parce qu'il y a la santé de l'enfant, son développement que l'on veut optimal, la stimulation précoce aussi. Le parent se perd parfois de vue dans ce combat-là.
Oh mon dos, je vous dirais, puis ça, c'est pas une préoccupation qui est très grande, hein? Oui, il va y avoir des gens qui viennent vous rencontrer à la maison, les éducateurs et éducatrices, qui vont voir des fois qu'il y a peut-être un problème là, au niveau de l'état de la famille. Mais mettons que ce n'est pas la plus grande préoccupation. Donc, les parents doivent souvent aller chercher de l'aide eux-mêmes. Puis, ce n'est pas évident d'aller chercher de l'aide, hein? Mais je pense qu'il faut le faire parce que des fois, il peut y avoir une cassure, là, tu sais. Il peut y avoir une dépression ou des choses comme ça. J'aimerais ça mentionner juste une chose aussi. Puis je pense que les gens sont très peu conscients de ça. Puis c'est un peu, tu sais, comme tu disais, Isabelle, la vie tourne autour de notre enfant. Puis à un moment donné, tu arrives dans la vie à un certain âge, comme dans la cinquantaine, la majorité des femmes dans la vie courante retrouvent une liberté parce que leurs enfants sont à l'université, s'organisent ou même sont peut-être mariés puis ont déjà peut-être une famille. Pour nous, là, la liberté, c'est comme un concept qui existe à peu près pas, parce que si on veut faire ce qu'on a envie de faire, quand on le veut, c'est impossible, parce que tout doit être planifié, organisé. Donc, on est toujours tenu à des organisations. Moi, j'ai entendu des gens dire, bien, c'est le même avec nos petits, mais on s'entend-tu que nous, c'est pas des petits?
Non, c'est des adultes.
C'est un gros manque, ça. La liberté, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas.
Oui. Et il y a ce trou, ce vide, hein? Isabelle parlait du vide lors du diagnostic, mais il y a un vide aussi après 21 ans pour les enfants qui vivent... Pour Isabelle, c'est dans quelques années. Mais oui, on le voit venir vite et ça doit être planifié aussi, j'imagine. Hélène, vous l'avez vécu,
oui,
vous, ce
vécu.
Vide-là?
Moi, ça s'est bien passé parce que je suis comme un chien de garde, voyez-vous.
Oui.
Je ne mords pas, mais je jappe, paraît-il. Alors, je prévois les choses. Dans mon cas, ça s'est bien passé, mais je ne crois pas que c'est la majorité. Pour la majorité des parents, ça se passe nécessairement bien. Quand je suis entrée dans le milieu associatif montréalais, au début des années 90, il y avait un dossier qui s'appelait « Les 21 ans et plus ». 1990-92, là. Bien, on en parle encore. C'est encore un dossier chaud.
Oui, bien oui.
Ça veut donc dire qu'il n'y a pas vraiment avancé. Souvent, les gens se retrouvent à la maison, ils n'ont pas d'activité. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils se bercent puis ils regardent la télévision. Il y a un risque de perdre les acquis, ce qu'ils ont acquis pendant
l'école,
la période scolaire.
Oui, 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 oui.
Alors, ce qu'ils ont acquis, bien, ça se perd. Puis je vous dirais que, puis là, c'est mon recul de 35 ans, les acquis en déficience intellectuelle, c'est pas toujours solide. C'est pour ça que c'est des acquis, mais bon, c'est fragile.
Oui.
Il faut toujours revenir, être vigilant pour éviter justement ces pertes-là.
Oui. Il reste 45 secondes. Il y a beaucoup de parents qui se tournent faute de service dans le service, dans le réseau public, vers des services privés. Et en même temps, et ça, Isabelle, vous le dites, j'ai presque honte de le dire, mais ça devient nécessaire, je dois le faire. Pourquoi on doit... C'est parce que notre réseau n'offre pas ces services-là qui sont nécessaires pour le développement de nos enfants?
C'est parce que le réseau n'offre pas les services. Et puis, à un moment donné, les enfants ont des besoins, mais moi, je vous dirais, pour moi, d'un point de vue associatif. Là. C'est sûr que personnellement, c'est jamais la même chose que les grandes orientations d'un organisme, mais c'est pas payant à long terme parce que le gouvernement s'assoit là-dessus en disant il se débrouille. Et notre rôle comme milieu associatif aussi, c'est de s'occuper de l'ensemble des familles. Donc, les plus pauvres n'ont pas accès à des services privés. Ils n'ont pas l'argent pour se payer ça. Alors, voilà.
Ouais. On aurait pu en parler encore longtemps, hein, n'est-ce pas? Il y a ce document que j'ai entre les mains, Hélène Morin, signé par Maître Aude Exercier, est-ce que je le dis comme il faut, avocate. C'est un guide, enfin, un guide pratique pour l'accès aux services sociaux et de santé à l'intention des parents, de tous les proches qui vivent avec un enfant, un proche qui a une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Je trouve que ça offre vraiment de très, très belles ressources. On peut se le procurer de quelle façon?
Il est sur le site web de l'Aptitude.
Très bien, aptitude.com.
C'est ça.
Hélène Morin, vous en êtes la présidente. Merci beaucoup de votre passage à l'émission.
Ça me fait plaisir.